Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fundamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fundamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies, leurs facteurs de risque et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Pascale, 56 ans. Avec elle, nous allons évoquer la bipolarité de type 2 et son chemin jusqu'à son rétablissement il y a 5 ans. Pascale, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Eh bien, donc je suis Pascale, j'ai 56 ans. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans le milieu de la communication en tant que responsable commercial.
À quel moment avez-vous vécu les premiers symptômes de votre maladie et quel a été leur impact sur votre vie quotidienne ?
Alors, les premiers moments, je les ai vécus en 2003, donc on peut dire que c'est très très ancien, sans savoir que c'était cette maladie-là, en fait. Donc en 2003, j'ai eu une première dépression suite à un choc psychologique. Voilà. Les symptômes, donc ça a été une dépression assez importante, soignée par antidépresseurs, et j'en suis sortie assez rapidement.
D'accord. Et quand avez-vous été diagnostiquée sur cette maladie ?
Alors, le vrai diagnostic, il a été posé en 2018, donc 15 ans plus tard. Au milieu, pendant cette période de 15 ans, il y a quand même eu une évolution sur le diagnostic. On s'est rendu compte que c'était certainement des troubles de l'humeur, certes, mais on n'a pas mis le doigt tout de suite sur la bipolarité, en fait. Donc, j'ai pas été soignée, on va dire, de façon appropriée pendant ces 15 ans. Et c'est simplement en 2018... que j'ai pu avoir un diagnostic plus précis qui ensuite a été confirmé par les centres experts. En bipolarité de type 2, c'est une maladie qui est très difficile en fait à diagnostiquer. Je comprends tout à fait ces retards de diagnostic qui sont très très difficiles finalement pour les patients, mais c'est normal je trouve en bipolarité de type 2 parce que vous avez des fluctuations de l'humeur qui sont terribles en termes de dépression. Donc là, on vous dit, vous avez une dépression. Mais en termes de petite excitation, c'est pas ce qu'on appelle la manie et quelque chose où vous allez devenir complètement, exalté, etc. Vous êtes juste un petit peu plus péchu que d'habitude. Des fois, on peut dire beaucoup plus, mais ça ne paraît pas anormal. Donc du coup, c'est pas détecté comme une maladie. Et ça, je pense que ça fait partie des raisons de la grande longueur de diagnostic. Dans ma maladie, en tout cas, c'était ça. Et en plus, c'est une maladie, quand vous êtes diagnostiqué dépressif et non pas bipolaire de type 2, eh bien, on vous donne des antidépresseurs, ce qui paraît logique. Or, cette maladie n'aime pas trop les antidépresseurs. Donc du coup, vous risquez en plus de provoquer des virages maniaques, comme on dit. Et ça, c'est le côté très, très dangereux de la médication quand elle est pas appropriée, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il faut creuser quand on a quelqu'un qui fait des dépressions très récurrentes, sans parler d'autre chose. À mon avis, il faut creuser pour voir s'il n'y a pas quand même de temps en temps des petites surexcitations dont le malade ne parle pas, en fait. Et c'était mon cas, en fait.
Comment avez-vous été prise en charge, justement, en centre expert et que vous ont-ils apporté ?
À vrai dire, les centres experts, j'en ai entendu parler. C'est moi qui en ai entendu parler. C'est moi qui ai trouvé un jour un article sur ces centres experts. Parce qu'évidemment, quand on est atteint de ce type de maladie et que ça traîne pour guérir, on veut absolument tout savoir et se donner toutes les chances. Donc en tombant là-dessus, un jour, j'en ai parlé à ma psychiatre de l'époque. Et j'étais très gênée de lui en parler parce que je me suis dit, elle va penser que je mets en doute ses capacités, etc. Simplement, moi, j'avais envie d'avoir une confirmation de ses doutes sur mon possible trouble de l'humeur et savoir ce que c'était. Voilà. Donc, elle n'a pas du tout été choquée et elle m'a effectivement fait une lettre parce que c'est comme ça qu'on arrive au centre expert. C'est via une lettre de recommandation, c'est pas le terme, mais une lettre de votre psychiatre au centre expert qui va demander un diagnostic, une précision de diagnostic ou autre.
Et donc, vous avez été diagnostiqué par ce centre pour la première fois ?
Ça a été plutôt une précision de diagnostic, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un trouble de l'humeur qui avait été envisagé, mais genre 13 ou 14 ans plus tard, après la première dépression. Et là, lorsque j'ai pu accéder au centre expert, effectivement, ils ont précisé un diagnostic qui était celui de la fameuse, entre guillemets, bipolarité de type 2. Et c'est important apparemment de bien séparer, enfin de bien reconnaître la bipolarité de type 1 ou de type 2. Celle de type 2, elle est plus difficile à appréhender. Donc c'est vraiment très important de pouvoir s'appuyer sur un centre expert qui connaît vraiment la santé mentale, quoi.
Et comment votre vie a évolué depuis ce diagnostic ?
Alors, depuis ce diagnostic, j'ai admis que j'avais une maladie déjà. Donc, j'ai admis que ma vie, elle allait changer. Et c'était plus un problème de ne plus avoir cette carrière commerciale que j'avais, qui était beaucoup trop stressante, parce qu'il faut admettre quand même à un moment donné que quand on a eu ce type de maladie, le stress est un facteur vraiment aggravant. Jusqu'à présent, j'étais plutôt du style à m'obstiner. Or, ça, j'ai appris que je n'avais pas à m'obstiner là-dessus et au contraire à reconstruire ma vie différemment. Donc aujourd'hui, je travaille je ferai beaucoup de bénévolat pour aider des gens à Croix-Rouge Écoute. C'est la Croix-Rouge en fait, parce que en étant rétablie, en allant mieux depuis plusieurs années, j'ai vraiment envie de donner en fait. Je suis présente pour ces personnes-là et puis je travaille d'une façon tout à fait différente maintenant avec des amis. Je travaille par exemple pour une boutique de bijoux. Enfin, je travaille plus du tout dans le côté, enfin avec le stress que je pouvais avoir avant. C'est terminé pour moi, ça. Donc ça a évolué.
Et quel a été votre parcours au sein du centre expert ?
Ce sont des centres réputés. Une fois qu'on est admis au centre expert, donc on a énormément de tests qui sont faits pour justement pouvoir vous donner un diagnostic le plus précis possible. Donc c'est vrai que là, les tests sont très creusés. C'est vraiment important. Enfin, c'est un dispositif de tests important. Donc il y a cette expérience-là, en fait, de tests. Il y a une visite avec donc un psychiatre, avec des psychologues cliniciens ou cliniciennes qui vous en apprennent un peu plus sur votre personnalité et comment éventuellement comment vous aider en fait dans votre parcours de rétablissement.
Avez-vous découvert de nouvelles solutions thérapeutiques dans ces centres ?
J'ai par exemple, oui, découvert, je savais que ça existait, la thérapie comportementale, cognitive et comportementale, mais c'est vrai que je m'y étais peu intéressé et en tout cas c'était une erreur, et effectivement au sein du centre expert j'ai pu m'en rendre compte, parce que quand vous avez une maladie comme ça, vous finissez par ne plus avoir une estime de vous très importante. Vous êtes persuadé que tout simplement que vous valez moins que les autres parce que vous êtes comme ça, et alors que la thérapie TCC, on appelle ça thérapie cognitivo-comportementale, va vous apprendre à reprendre vraiment confiance en vous. Donc ça, je dis pas que, enfin, au centre expert, vous ne faites pas la TCC dans son entièreté. Par contre, on vous dit, on vous recommande un certain nombre de choses, dont la TCC, dont l'éducation thérapeutique. Et ça, par contre, ils nous font de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on apprend tous les jours de notre maladie. Enfin, quand je dis tous les jours, c'est quand on les voit, ils nous expliquent. Enfin, on a des ateliers qui nous permettent de comprendre comment se soigner, comment aller mieux. Un tas de méthodes, si vous voulez, qu'on n'avait pas jusque-là. Donc ça fait partie des choses que j'ai apprises avec le centre expert. Il parle aussi de choses qui paraissent plus originales, mais comme la méditation, par exemple. Il y a des thérapies qui sont basées sur la méditation et qui fonctionnent dans le type de maladie bipolaire, par exemple, enfin, en santé mentale. Voilà. Donc c'est très riche, en fait, en apprentissage. Au centre expert, un des outils très intéressants, c'est en atelier d'éducation thérapeutique. Il y a tout un chapitre qui est consacré, en fait, à repérer les signes avant-coureurs d'une rechute. Repérer, ce qu'on appelle les prodromes, si je me souviens bien. Souvent, vous ne les reconnaissez pas, parce que vous ne les faites pas attention, mais en nous expliquant comment vraiment faire attention à soi et à ce qui nous arrive, on peut arriver à comprendre que tel signe est un souci, enfin, est une potentielle alerte pour une rechute. Et mettre en place, à ce moment-là, on nous explique qu'on peut mettre en place, à ce moment-là, des mesures qui vont faire que la rechute, si elle arrive, sera beaucoup plus faible, ou même on peut éviter la rechute, parfois.
Ce parcours du combattant vous a inspiré à suivre une formation de père aidante. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors j'ai effectivement fait une. Je suis en train de faire une formation de père aidante. C'est un diplôme universitaire qui se passe à Tours, mais il y en a plusieurs en France. Ce sont des formations extrêmement nouvelles. Je pense que la première, elle a pas. Enfin. Je ne saurais pas donner la date exacte, mais enfin, c'est très, très récent. Et la père aidance, j'en ai entendu parler pour la première fois au Centre Expert, l'atelier éducation thérapeutique, dans les outils qu'on nous propose. Finalement, ce sont des outils qu'on nous propose pour aller mieux. Il y avait la possibilité de voir et de consulter une père aidante ou un père aidant. Et cette personne-là, en fait, c'est une personne anciennement malade, rétablie. Ça veut dire qu'elle n'est pas guérie, puisque dans nos maladies, on ne peut pas parler de guérison. C'est chronique. Une personne rétablie peut donner de l'espoir à une personne qui, elle, est encore malade, est encore dans son chemin pour arriver à se rétablir et à reprendre le pouvoir un peu sur sa vie. Donc un père aidant, c'est vraiment une personne qui va être capable de lui donner de l'espoir et de lui prouver en fait que c'est possible de s'être remis de cette maladie ou de ces maladies en santé mentale, quoi.
D'accord. Et cette formation, vous l'aurez bientôt terminée ?
Alors, elle se termine en juin avec la remise d'un mémoire. Donc voilà, ça sera en juin 2024, théoriquement, où je serai diplômée d'un diplôme universitaire en père aidance en santé mentale.
Merci beaucoup, Pascal.
Je vous en prie.